Ça te dirait de voir Backseat jusqu'en 2027, 2040 même? Eh bah c'est possible, mais pour ça on a besoin de toi. Backseat, c'est une émission qui tient à son indépendance, c'est pourquoi nous avons choisi de faire reposer une partie du financement de l'émission sur notre public. Chaque épisode coûte 13 000 €, ce qui comprend toute la logistique, mais surtout les salaires de chaque personne intervenant sur l'émission. Pour pouvoir diffuser toute l'année, nous avons besoin de 30 000 € par mois. Alors rends-toi sur KissKissBankBank, choisis l'abonnement que tu préfères et profite des contreparties que nous proposons en échange, comme le fait de voir l'émission en intégralité sur YouTube dès le vendredi matin, ou l'adhésion au Club Backseat, qui donne accès à plein d'avantages. Si chaque spectateur régulier donnait 1 € par mois, nous pourrions produire Backseat pendant de nombreuses années. Alors rendez-vous sur KissKiss pour soutenir cette belle émission. Et tout de suite, ta VOD.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Backseat, bonsoir, bonsoir le public. Merci à vous d'être là, merci beaucoup, très heureux de vous accueillir, chers amis, ce soir sur une émission exceptionnelle, une émission Backseat au cours de laquelle on va parler de beaucoup de choses, on va parler de politique avec mes chroniqueurs, on va recevoir des invités exceptionnels, Raquel Garrido qui passera nous dire quelques mots dans l'émission et Marie-Lise Léon, la secrétaire générale de la CFDT en invité politique. Mais avant ça, on va rencontrer mes chroniqueurs, mais avant ça, on va rencontrer une personne exceptionnelle. Je vous propose d'accueillir sur ce plateau le premier invité. Il est le réalisateur de films d'animation, notamment connu pour la série Last Man, sortie en 2016. Et le 22 novembre prochain, il sort son nouveau bébé, Mars Express. Un tonnerre d'applaudissements pour Jérémy Perrin. Salut Jérémy.
Salut.
Merci d'avoir accepté de venir sur Backseat.
Bah, merci de m'inviter.
Très content de t'accueillir. Tu vois, je le disais, tu es surtout connu pour jusque-là dans des séries, The Last Mask, Crazy Young également. Ouais. Comment est-ce qu'on peut qualifier ton travail? Tu es un réalisateur de films d'animation?
Bon, on peut dire juste réalisateur, hein. Je veux dire, les réalisateurs de films en vue réelle ou de cinéma live, on ne précise pas réalisateur de films en vue réelle.
C'est vrai, tu as raison.
Donc, normalisons ce truc-là aussi pour l'animation d'être juste réalisateur.
Eh ben, je suis parfaitement d'accord, tu es réalisateur. Alors, on t'a connu dans l'action fantastique avec The Last Man, on t'a connu avec Crazy Young qui était dans le post-apo. Là, Mars Express qui sort le 22 novembre prochain, on parle de hard SF. C'est quoi ton univers? C'est quoi ton genre?
Ben, tous les genres, moi j'aime bien tous les genres. C'est vrai que j'ai une prédilection pour le cinéma de genre en général, qui ne ça signifie pas que le cinéma de genre peut pas être autorisant, parce que souvent en France on a opposé comme ça des typologies de films, alors que finalement le genre qui prend ses sources, je crois, hein, dans une manière de découper le cinéma de manière commerciale, en fait, pour donner envie aux spectateurs d'aller voir, voilà, vous allez voir un film policier, vous savez où vous mettez les pieds, un film de SF, etc. Moi, je pense que ça a aussi du bon d'une certaine manière, parce que c'est des types de films ou d'histoires qui ont aussi leur code et qui permettent d'entrer assez simplement dans des récits et de savoir où on met les pieds. Et après, à chaque film aussi, d'un petit peu tordre ses codes pour renouveler le genre, justement, comme on dit.
Il y a quand même une ligne directrice, c'est que ce sont des films pour adultes que tu fais. Comment est-ce qu'on définit ça? C'est la place de la violence et du sexe?
Le premier réflexe, c'est de penser ça, effectivement, parce que quand je dis je fais des dessins animés pour adultes, on pense tout de suite que je fais des hentai.
Ouais, c'est ça, ouais, du bon vieux porn.
Alors que non, c'est pas du tout l'intention, c'est que c'est un réflexe inversé du fait qu'on associe très vite l'animation à quelque chose pour enfants ou pour toute la famille, exemplairement, en fait, à cause de Disney.
Pixar, oui, c'est vrai, maintenant que tu le dis, oui.
La vérité, c'est que cette question-là, on se la pose moins pour le cinéma au sens large, et on se sent obligé de préciser que c'est pas pour enfants quand on fait un dessin animé comme ceux que je fais, mais ça veut pas dire que c'est qu'une question d'ultra-violence ou de cul. Non, c'est aussi des histoires de thématiques et aussi de mise en scène. C'est vrai que quand on fait un dessin animé à destination d'un public plus mûr, on peut utiliser des codes de mise en scène plus sophistiqués que parfois on peut nous reprocher quand on les utilise dans l'animation pour enfants. On va nous dire « Ah, les enfants ne vont pas comprendre ça ». Alors, moi, je pense en plus que les enfants ont une perception des choses assez élaborées, qu'ils peuvent très bien comprendre tout un tas de systèmes, d'images. C'est simplement, les décideurs dans les chaînes de télévision ou les producteurs qui ont plus peur de l'interprétation qu'en feront les enfants.
Tu penses qu'il y a une pudibonderie de la part des décideurs avant de diffuser des trucs que pourtant les enfants seraient aptes, selon toi, à regarder?
Oui, mais alors là, je parle pas forcément d'images violentes, hein, consentantes.
Non, pas forcément.
Je parle de manière de raconter les histoires.
Ouais, ok.
En tout cas, une frilosité de peur d'être mal compris, quoi, ou d'être compris de travers, je pense.
Comment ça a commencé pour toi, tout ça? Est-ce que c'était une évidence pour toi d'aller travailler dans l'animation?
Ouais, assez vite, ouais. En fait, très tôt, je voulais être réalisateur de films. Parce que j'ai toujours adoré le cinéma, mais également je dessinais depuis la maternelle. La différence, c'est que moi j'ai continué de dessiner après, quoi, au CP et les autres classes. Et l'idée que je me suis faite, c'était de mixer comme ça mes deux intérêts dans la vie, le dessin et le cinéma. Et en fait, pour moi, c'était l'animation finalement.
Non, mais ça a du sens. D'ailleurs, un truc que j'ai appris en préparant cette interview, c'est que la France, c'est le troisième pays au monde de production de dessins animés, ouais, après les États-Unis et le Japon. Ouais. C'est quelque chose que tu ressens, toi, la France, ça pèse dans ce game-là ?
Ouais, tout à fait. Moi, en fait, ça fait longtemps qu'on est dans sur ce podium-là, mais je le voyais pas forcément quand je suis sorti de mes études au Gobelin. Force est de constater aujourd'hui qu'énormément de travailleurs et travailleuses de l'animation en France participent à des productions américaines en particulier. Ouais. Alors, il y a une communauté de Français au Japon, mais c'est un peu plus petit, alors que des séries comme Arcane sont intégralement faites en France, des séries qui sont achetées par Netflix comme Captain Lazaro qui sont faites en France aussi, bien sûr. Voilà, il y a énormément de productions comme ça qui sont faites en France.
Entre la sortie de tes études des Gobelins et aujourd'hui, il y a eu 15 ans qui se sont déroulés. Je suppose que tu n'es pas devenu réalisateur du jour au lendemain. Tu es passé par des étapes, ça a été compliqué ou dès le début, tu as lancé
Non, alors c'est compliqué, ouais. On ne sort pas de l'école et tout d'un coup, il y a un producteur avec des valises de billets qui sonne chez vous et qui vous dit « Tenez, je suis sûr que vous êtes génial, prenez tout mon argent. » Non, ça n'existe pas, malheureusement.
Malheureusement.
Ouais. Mais non, par contre, ce que j'ai fait, c'est que comme tout un chacun, j'ai bossé dans des studios à différents postes, à apprendre en commençant un peu tout en bas. C'est-à-dire qu'au début, je faisais des photocopies et du clean, de model sheet. Alors là, je vais parler dans un langage que personne ne va comprendre. C'est les designs des personnages, voilà.
Okay.
Et il fallait les mettre au propre, et c'était sur Totally Spies, pour ceux qui connaissent cette série.
Oui.
Et à l'époque, je m'étais dit, vraiment, ce truc, ça va jamais marcher, j'avais vraiment pas du tout le nez creux. Mais voilà, aujourd'hui, donc je commençais là-dessus, et puis de fil en aiguille, on rencontre des gens, on bosse sur d'autres projets, on entend parler de clips qui vont se faire, donc je me suis retrouvé animateur. Après, j'ai un peu bossé dans le jeu vidéo vite fait, ça n'a pas tellement abouti.
Ouais, t'as roulé ta bosse sur plein de projets.
C'est ça,
fait.
Voilà.
Ouais, ouais, ouais.
Mon intention, c'était d'apprendre un peu tous les métiers qui fabriquent, qui font l'animation, et d'avoir une connaissance technique solide pour agrémenter mon travail comme réalisateur plus tard.
Ton premier gros succès, c'est un clip que tu avais réalisé. Tu peux nous en parler un peu ? On sortait déjà la patte de la science-fiction dans ce clip.
Alors, toi, tu penses à Fantasy, j'imagine,
oui, je
pour le groupe DAI. Ouais, ouais.
Parce que tu en as fait d'autres, sûrement.
Oui, j'en ai fait d'autres avant, mais qui ont été effectivement moins connus. Mais quoique un parmi ceux-là avait déjà bien marché, mais peu importe, c'est vrai que c'est celui-là qui a vraiment fait... qui a explosé, quelque chose comme 68 ou 69 millions de vues sur YouTube. Mais alors, justement, cette vidéo n'existe plus sur YouTube. Le clip a été ban il n'y a pas longtemps.
Ah ouais, pourquoi?
Ouais, attention à ce que vous allez montrer.
Ouais, d'ailleurs, si on peut arrêter de le montrer, du coup, ce serait bien, parce que voilà.
Mais c'est qu'à la moitié du clip que ça a...
Ouais, je sais, me souviens du clip.
Voilà, oui. Ah, c'est ça, mais... Alors attends, la question c'était quoi? Parce que j'ai fait des...
La question c'est ce clip qui t'a rendu célèbre, et il y avait... Enfin, ce qui t'a rendu célèbre, en tout cas, c'est celui que moi j'avais...
De niche quand même, attention. Bon, hein.
Oui, de niche, mais enfin, voilà, et on voyait déjà l'inspiration SF.
Ouais. Oui, alors c'est plus une SF horrifique, si on veut. Alors pour moi, c'était plus une sorte d'horreur cosmique. C'est un truc très Lovecraftien, effectivement. Mmh. Mais encore une fois, déjà là, je jouais sur le genre, puisque la première partie du clip s'annonce comme une sorte d'histoire adolescente avec des amourettes et un peu de la drague, des trucs comme ça. Très, à l'époque, je disais que l'intro était un peu Sofia Coppola, quoi, et que d'un seul coup, ça virait à la Carpenter à la moitié du clip, quoi, et que c'était The Thing et Lovecraft, enfin voilà.
Ouais, je vois.
Et c'est cet effet-là qui a, je pense, été marquant pour les spectateurs et spectatrices de l'époque et qui les a traumatisés pour beaucoup.
C'est traumatisant comme film, mais moi je l'ai adoré. Est-ce que c'est compliqué d'arriver à faire produire de l'animé interdit aux moins de 16 ans, justement, puisqu'on parle de ce côté ban
Ouais, c'était pendant longtemps impossible, en fait, et jusqu'à un moment donné où... je sais pas, c'est la concomitance de beaucoup de choses qui sont arrivées, mais en l'occurrence, Last Man, ça a été possible parce que des responsables au service jeunesse de France Télévisions étaient des gens qui avaient... à peu près notre âge, quoi, et qui, eux aussi, de leur côté, bataillaient pour créer une case horaire spécifique pour accueillir ce type de programme, quoi, d'animation plus, pour plus âgé.
En l'occurrence, France TV Slash, c'est entre 22h30 et 5h du mat ouais. que c'est diffusé.
Oui, alors pour la saison 1 de la semaine, parce que moi, je n'ai pas bossé sur la saison 2, hein, je n'ai fait que sur la 1. Pendant la saison 2, moi, je faisais Mars Express, je pouvais d'accord. faire à la fois. C'était encore sur France 4 à ce moment-là, qui était une chaîne plutôt orientée ado à ce moment-là. Mmh. Grâce à eux et grâce à mon producteur Didier Crest qui se lançait dans la production d'animation, lui il venait plutôt du live et il est un peu parti la fleur au fusil, c'est-à-dire qu'il n'était pas comme un producteur d'animation qui est déjà qui s'est déjà retrouvé face à plein de refus sur ce type de projet. Il y allait un peu plus innocemment en se disant « Bah si, pourquoi on ne pourrait pas faire ça ?» Et moi, je lui ai rien dit. Je fais « Oui, oui, bien sûr. »«
Oui, oui, très bonne idée. Oui, allez-y. »
Et en fait, c'est comme ça que ça s'est fait, aussi par un concours de circonstances que
bah, tant mieux.
Chez France Télévisions, il y avait une oreille attentive à ça et,
écoute, tant mieux.
Et le projet leur a plu.
On est toujours avec toi, Jérémy Perrin. Donc, tu es le réalisateur de ton premier long métrage qui sort le 22 novembre prochain, qui s'appelle Mars Express. Je vous propose qu'on regarde la bande-annonce et on se retrouve juste après pour en parler.
Roy Jacker vous attend dans votre bureau.
Aline Ruby, Carlos ne vous a pas fait entrer ?
Ah oui, lui aussi mis à jour.
C'est ma fille, June. Elle a disparu et sa camarade de chambre aussi. Sa chambre est au campus Alan Turing.
Mode sobriété activé.
Ouais, désactivation.
Elles ont disparu ensemble. Qu'est-ce qu'elles pouvaient avoir en commun ?
Le proviseur, il va vous montrer l'enregistrement.
J'ai essayé de l'éteindre. C'est pour ça que l'Android se défend.
Désactivation !
Il enfreint la directive 1.
On a localisé l'Android.
Vous voyez ça ? Il s'est pas laissé faire, le gars.
Eh, venez voir par ici !
Je comprends pas. Pourquoi construire un vaisseau spatial ? Qu'est-ce que Jun Cho a fait à ce robot ?
Sa fille soupçonnait Jun de se prostituer.
Regarde ce que je vois en thermique.
Vous avez des prostituées humaines ?
Rien que du synthétique, mais nous nous considérons comme 100% humains. Pas vrai, monsieur ?
C'est un logiciel pour prendre le contrôle total d'un robot.
On a bien vu ce que ça donne, des robots lâchés en liberté.
Écartez-vous !
Missile !
J'arrive, Aline !
Et on est toujours du coup sur ce plateau de Backseat avec Jérémy Perrin, donc le réalisateur de ce long métrage. Donc pour résumer, on est en 2200 sur Mars. Aline, une détective privée, enquête sur un meurtre avec un ami à elle qui est un androïde, sur fond justement de débats éthiques sur le libre arbitre et le statut des androïdes. Est-ce que c'est ça ?
Ouais, c'est ça à peu près. Ouais.
Bah écoute, trop cool. Un petit truc aussi qui vous a peut-être piqué l'oreille quand vous avez entendu cette bande-annonce, c'est qu'on a Usul qui prête sa voix à l'un des personnages. Usul, est-ce que tu veux nous rejoindre pour venir en parler ? Usul qui donc a prêté sa voix à l'un des personnages dans le film Mars Express. Mets-toi juste à côté à cette place-là, ouais.
Bonjour.
Salut Usul.
Avec ma voix.
Avec ta voix. Tu nous expliques comment tu t'es retrouvé à...
Bah il m'a demandé, puis j'ai dit oui.
C'est, la première...
c'est aussi simple que ça, hein, vraiment.
Tu connaissais Usul, toi, Jérémy ?
Un tout petit peu. En fait, pendant la fin du confinement, du premier confinement, on s'est retrouvés, on a des amis en commun, et on s'est retrouvés à jouer en ligne à Gartic Phone et Scriblio, je crois.
Très, très bon,
et voilà.
Très bon choix. Et donc, voilà.
Il s'est dessiné. Et s'il faisait une voix dans un dessin animé ?
Usul, ça s'est passé comment, du coup, l'exercice de prêter sa voix, ça doit pas être facile. On voit quelques images.
Ouais, j'avais pas vu ces images, moi. Donc, bah, c'était, ça date, hein, c'était il y a 3 ans, je trouve ça s'est super bien passé. Enfin, j'ai adoré l'après-midi que j'ai passé. Donc, j'ai quelques scènes dans le film. Moi, je suis pas un personnage très important, hein. C'était une expérience vraiment. J'avais jamais fait ça. Donc, c'est un peu un rêve de gamin. Tu sais, tout le monde dit ça. C'est
bah non, pas tout le monde. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Ça me serait jamais venu à l'idée d'accepter de prêter ma voix. Tu vois, je sais pas. J'ai jamais fait. Puis surtout, j'ai un côté. Je suis pas comédien.
Ah oui, par contre, un truc de comédien.
Ouais, enfin, c'est un truc de comédien.
C'est vraiment. Mais bon, j'ai fait un peu de théâtre dans ma jeunesse. J'ai fait des sketchs avec JDG. C'est bon, quoi. J'ai fait à la dure.
Jérémy, il y a un truc qui m'a intéressé dans le film et dans. On va pas trop révéler l'intrigue, mais Aline Ruby, donc la détective privée, elle est pas complètement toujours du bon côté.
Non, elle démarre même pas tellement du bon côté. Hein. Elle est à la solde d'un milliardaire qui est une sorte d'équivalent de, on va dire, des milliardaires de la tech, de la Silicon Valley, quoi, mais dans l'espace.
Voilà, bah ouais, mais c'est intéressant. D'ailleurs, tes inspirations, tu nous as dit que tes inspirations pour ça, c'était clairement Jeff Bezos, Elon Musk.
Tout à fait, ouais, ouais. Bah oui, parce que quand on a commencé à écrire le scénario, on savait déjà qu'on avait un peu envie d'aller sur Mars pour, dans un premier temps, vraiment un côté un peu exotique, on va dire. Et puis finalement, on a renversé complètement la vapeur du moment où... on entendait en début d'écriture les premiers délires de Elon Musk et de Jeff Bezos d'aller s'installer dans des stations spatiales pour l'un ou sur des colonies martiennes pour l'autre, et où on s'est dit mais qu'est-ce que ça va être c'est quoi leur utopie à ces gens-là, tout ce qu'ils souhaitent c'est d'être des sociétés extra-étatiques qui essayent de s'arranger pour que les États, que ce soit en Europe, aux États-Unis et partout, les laissent tranquilles à faire ce qu'ils ont envie, quoi. Donc on s'est dit ils sont en train de nous recréer une espèce d'ambiance cyberpunk, là c'est ça leur rêve, c'est une espèce de vieille dystopie à l'ancienne des années 80, donc on est parti là-dessus, quoi.
Et tu as entendu la chronique de Vincent tout à l'heure sur les questionnements éthiques autour de l'intelligence artificielle. Toi, c'est pas quelque chose que tu utilises, l'intelligence artificielle, dans ton travail?
Non, on l'a pas utilisé parce que, faut dire que ce film, on a pris 5 ans et demi à le faire. Hein, donc, on l'a commencé il y a 6 ans. Et ChatGPT, Midjourney, DALL-E, tout ça, ça a popé vraiment. On était en fin de prod. Et je me suis quand même posé la question, et c'est une question qui revient souvent quand je fais des avant-premières de la part du public, c'est avez-vous utilisé des intelligences artificielles pour ce film?
Est-ce que tu le feras à l'avenir?
Ça dépend du contexte. Je dirais, là, il y a une séquence du film qui pouvait s'y prêter, mais parce que ça aurait eu du sens vraiment pour le film. Mais sinon, je ne sais pas, c'est particulier. Je pense que je n'ai pas d'avis totalement arrêté sur l'outil. Si c'est un outil, ça dépend qui en est le propriétaire. Ça dépend si on peut nourrir soi-même son générateur d'images et l'utiliser comme... un agrément sur, par exemple, des décors. Si tu es en train de dessiner une jungle gigantesque et que tu en as un peu marre de faire les arbres du fond, tu as nourri ton intelligence artificielle de tes propres arbres, tu as fait plusieurs modèles et tu lui dis fais les arbres du fond à ma manière. C'est peut-être un gain de temps. Mais,
d'accord, ok.
Mais même là, je pense que là où ça a l'air d'être intéressant, je pense que les producteurs et les productions profiteraient de ce gain de temps pour continuer toujours de resserrer les temps de prod et malgré tout...
Fais ça plus vite, ton truc bien, là.
C'est compliqué.
Et ce qui est intéressant, c'est que justement, le film Mars Express s'interroge sur l'éthique de l'informatique, de la robotisation des androïdes. Et donc, ça vient toucher très directement. C'est vrai que tu as beaucoup de questions, les gens t'interrogent beaucoup là-dessus.
Oui, c'est ça, sur la question de l'humanité des machines, des robots, sur l'angle politique du film.
Optimiste, pessimiste
Moi, je pense qu'il y a tout intérêt à légiférer le plus tôt possible, effectivement. Alors, ça a un peu commencé, mais c'est toujours un peu timide, j'ai l'impression, parce qu'il faut quand même essayer de se projeter. C'est compliqué d'imaginer ce que ça va donner pour de vrai. Nous, dans le film, on est à un stade où les robots sont au-delà, bien au-delà de ce qu'on a actuellement. C'est-à-dire qu'ils sont déjà sensibles, ils ont déjà des émotions, etc. Donc, le film a plutôt tendance à prendre parti pour eux, mais parce que c'est un contexte spécifique.
Eh bien, écoute, c'est super impressionnant. Merci beaucoup, Jérémy Perrin, d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Backseat. Donc, je rappelle, Mars Express à découvrir à partir du 22 novembre prochain dans votre cinéma. On va marquer une petite pause avec un générique et on va continuer sur l'émission Backseat. Merci beaucoup. Un tonnerre d'applaudissements pour Jérémy Perrin.
Merci. Merci beaucoup.
Merci.